Aristote, de la respiration, traduction, Jules Barthélemy Saint-Hilaire. Chapitre 1er, sommaire. Les travaux des naturalistes antérieurs sur la respiration sont très incomplets. Tous les animaux ne respirent pas ainsi qu'on l'a cru faussement. Il n'y a que les animaux pourvus de poumons qui respirent. Organisation diverse du poumon, rapport de l'organisation du poumon avec le besoin de respiration. Paragraphe 1. Parmi les naturalistes qui nous ont précédés, il en est bien peu qui aient traité de la respiration. À quelle fin cette fonction a-t-elle été donnée aux animaux ? C'est une question que les uns ont complètement passée sous silence et que les autres ont résolue d'une manière très peu satisfaisante, sans tenir suffisamment compte des faits que fournit l'observation. Par exemple, ils prétendent que tous les animaux respirent, et cela n'est pas exact. Il sera donc nécessaire de traiter d'abord ce point spécial pour ne pas avoir l'air de porter de vagues accusations contre des gens qui ne sont pas là pour nous répondre. Paragraphe 2. Il est évident que tous les animaux qui ont des poumons respirent. Mais parmi eux, tous ceux dont le poumon est privé de sang et est spongieux ont moins besoin de respiration que les autres. Aussi, peuvent-ils, comparativement à la force de leur corps, demeurer fort longtemps sans respirer? Or, tous les ovipares ont le poumon spongieux comme le genre grenouille. Les lézardos et les tortues peuvent rester aussi fort longtemps dans l'eau, car leur poumon a peu de chaleur parce qu'il a fort peu de sang. Le poumon, se gonflant lui-même par le mouvement qui lui est propre, refroidit l'animal et lui permet de demeurer longtemps sans respiration. Cependant, tous ces animaux, si on les tient trop longtemps sous l'eau, finissent par y être étouffés, parce qu'aucun d'eux ne peut recevoir l'eau comme le font les poissons. Paragraphe 3. Au contraire, les animaux qui ont beaucoup de sang dans le poumon ont plus besoin de respiration, parce qu'ils ont une chaleur plus considérable. Paragraphe 4. Parmi les animaux qui n'ont pas de poumons, il n'en est aucun qui respire. Chapitre 2. Sommaire. Travaux et erreurs de Démocrite. Anaxagore et Diogène ont essayé d'expliquer le mécanisme de la respiration chez les poissons et les coquillages. Réfutation de leurs explications. Ils n'ont pas poussé l'analyse assez loin. Ils n'ont vu que la moitié des choses, le phénomène total de la respiration, se compose de deux autres, l'inspiration et l'expiration. Paragraphe 1. Démocrite d'Abdère et quelques autres qui se sont occupés de la respiration n'ont rien dit des animaux autres que l'homme, et ils semblent avoir supposé que tous les animaux sans exception respirent. Paragraphe 2. Anaxagore et Diogène, en admettant aussi que tous respirent, n'ont expliqué le mécanisme de cette fonction que pour les poissons et les coquillages. Paragraphe 3. Ainsi, Anaxagore prétend que les poissons, au moment où ils rejettent l'eau par les branchies, respirent en humant l'air qui vient alors dans leur bouche, car, suivant lui, il ne peut y avoir de vide nulle part. Paragraphe 4. Diogène soutient que, quand les poissons rejettent l'eau par les branchies, ils tirent l'air de l'eau qui entoure leur bouche, au moyen du vide qui se fait dans leur bouche à ce moment. Et par là, Diogène suppose qu'il y a de l'air dans l'eau. Paragraphe 5. Mais tout ceci est inexact. D'abord, ces auteurs suppriment la moitié des choses, parce qu'ils ne disent que d'une seule des deux parties du phénomène, ce qui cependant est commun aux deux. On appelle ce phénomène respiration. Mais dans la respiration, il faut distinguer d'une part l'expiration et de l'autre l'inspiration. Or, Anaxagore et Diogène ne disent pas du tout comment l'expiration peut se faire chez les animaux dont ils parlent, et il serait bien impossible de le dire. En effet, quand les animaux respirent, il faut encore qu'ils expirent par le même moyen qui leur a servi à respirer. Et ce mouvement régulier doit se continuer sans interruption. Par conséquent, il faut qu'au même moment où ils reçoivent l'eau dans la bouche, ils respirent l'air qui est contenu en eux. Or, nécessairement, ces deux mouvements en se rencontrant se contrarient l'un l'autre. Ensuite, quand ils rejettent l'eau, ils expirent l'air, soit par la bouche, soit par les branchies. Il s'ensuit donc qu'ils expirent et respirent en même temps, car c'est là précisément ce que ces auteurs appellent respirer. Mais il est impossible de respirer et d'expirer en même temps, de façon que s'il faut nécessairement que les animaux expirent et aspirent pour respirer, et qu'aucun d'eux ne puisse expirer, il est parfaitement évident aussi qu'aucun d'eux non plus ne respire. Chapitre 3. Sommaire. Suite de la réfutation des théories d'Anaxagore et de Diogène sur la respiration chez les poissons. Arguments divers tirés de l'organisation de l'homme, de celle des insectes et de quelques observations sur les animaux qui respirent. Cause générale de ces erreurs. Premièrement, on n'observe pas assez les faits et les organes des animaux. Deuxièmement, on ne sait pas assez que la nature a toujours un but dans tout ce qu'elle fait. Paragraphe 1. Soutenir que les poissons tirent l'air de leur bouche ou de l'eau avec leur bouche est également impossible. En effet, ils n'ont pas d'artère parce qu'ils n'ont pas de poumons. Mais l'estomac est placé tout de suite après la bouche. Cela revient donc à dire qu'ils aspirent l'air par leur estomac. Il faudrait que les autres animaux également fonctionnassent ainsi. Or, ils n'ont pas cette organisation. Et si les poissons l'avaient, on le verrait très aisément quand ils sont hors de l'eau. Mais évidemment, ils ne l'ont pas. Paragraphe 2. De plus, dans tous les animaux qui respirent et qui tirent leur souffle, on observe toujours un certain mouvement de l'organe qui le tire. Or, c'est ce qui ne s'observe pas chez les poissons. En effet, aucune des parties qui entourent le ventre ne paraît se mouvoir. Ils ne meuvent que les branchies, soit lorsqu'ils sont dans l'eau, soit quand, rejetés sur terre, ils y palpitent. Paragraphe 3. Il faut remarquer encore que quand les animaux qui respirent viennent à être suffoqués dans l'eau, ils se forment des bulles d'air, parce que l'air sort violemment du poumon. On peut le voir, par exemple, quand on fait cette violence aux tortues, aux grenouilles, ou à quelque autre animal de ce genre. Or, cela n'arrive pas avec les poissons, de quelque façon qu'on s'y prenne. Sans doute parce qu'ils n'ont pas en eux la moindre parcelle d'air du dehors. Paragraphe 4. Mais le mécanisme de la respiration tel qu'on l'explique pour les poissons pourrait tout aussi bien convenir aux hommes et les faire vivre dans l'eau. Si les poissons tirent l'air de l'eau environnante quand elle est dans leur bouche, pourquoi les hommes aussi bien que tous les autres animaux ne le feraient-ils pas de même? Pourquoi Ne tireraient-ils pas aussi l'air de leur bouche absolument comme les poissons? Si ce que l'on dit était possible, ceci le serait également. Comme cette dernière supposition n'est pas exacte, l'autre ne l'est pas davantage. Paragraphe 5. D'ailleurs, si les poissons respirent, pourquoi meurent-ils quand ils sont dans l'air et paraissent-ils bâiller comme des animaux qui étouffent? Ce n'est certes pas par privation de nourriture, et la cause qu'en allègue Diogène est tout à fait naïve. Il prétend que dans l'air, ils prennent trop d'air, tandis qu'ils n'en ont dans l'eau que ce qu'il leur en faut. Selon lui, c'est là ce qui les fait mourir. Pour que ceci fût vrai, il faudrait que le même phénomène se répétât aussi pour les animaux terrestres. Mais on n'a jamais vu d'animal terrestre étouffé parce qu'il aurait trop respiré. Paragraphe 6. Ajoutez que si tous les animaux respirent, les insectes doivent respirer aussi. Or, il y en a beaucoup parmi eux qui vivent encore, même après qu'on les a coupés, non pas seulement en deux morceaux, mais même en plusieurs morceaux, comme les insectes qu'on appelle scolopendres. Mais comment peuvent-ils alors respirer et par quel organe? Paragraphe 7. Ce qui est cause qu'on n'explique pas convenablement tous ces faits, c'est qu'on ne connaît pas les organes intérieurs des animaux et qu'on ne se dit pas assez que la nature, dans tout ce qu'elle fait, a toujours un but. En effet, si l'on s'était donné la peine de rechercher dans quelle vue la respiration a été donnée aux animaux, et si l'on avait observé cette fonction dans les organes qui l'accomplissent, comme les branchies et les poumons, on en eût bien vite connu la cause. Chapitre 4. Sommaire. Réfutation de la théorie de Démocrite sur la respiration. Exposition développée de cette théorie. Explication que Démocrite donne de la mort, elle ne vaut que pour les animaux qui respirent. Sa théorie est contredite aussi par le phénomène que nous présente notre propre respiration quand nous avons très chaud. Paragraphe 1. Quant à Démocrite, il prétend bien que la respiration chez les animaux qui respirent a un résultat et que c'est d'empêcher que l'âme ne soit expulsée du corps. Mais toutefois, il n'a pas dit précisément que ce fut pour cet objet que la nature eut créé cette fonction. C'est que Démocrite en général, non plus que tous les autres naturalistes, ne touche rien de cette cause. Paragraphe 2. On dirait que pour lui, l'âme et la chaleur sont la même chose et qu'elles sont les formes primitives de ces sphéroïdes. Les sphéroïdes étant réunis par le milieu qui les entoure et les écrase, la respiration, selon ses théories, devient alors un secours pour les animaux. Il lui semble en effet qu'il y a dans l'air beaucoup de ces sphéroïdes auxquels il donne le nom d'intelligence et d'âme. Quand donc l'animal respire et que l'air entre en lui, beaucoup de ces sphéroïdes y entrent en même temps. Et, y exerçant une pression, ils empêchent que l'âme qui est dans les animaux ne s'échappe. Paragraphe 3. Voilà, selon lui, comment vivre et mourir consiste à respirer et à expirer. Quand le milieu qui entoure l'animal et qui le comprime vient à être le plus fort et que l'élément venu du dehors dans l'organisation ne peut plus faire résistance, l'animal, devenant incapable de respirer, subit alors le phénomène de la mort. Et ainsi, la mort n'est pas autre chose que la sortie de ses formes sphériques, chassées du corps par la pression du milieu environnant. Paragraphe 4. Démocrite, du reste, n'a pas dit un seul mot pour expliquer pourquoi tous les animaux doivent mourir nécessairement. Non pas par un pur hasard, mais de vieillesse, selon l'ordre de la nature, et violemment, quand ils meurent contre les lois naturelles. C'était cependant un point à éclaircir que de savoir, puisque ce phénomène tantôt arrive et tantôt n'arrive pas, si c'est la même cause qui agit dans les deux cas, et si elle vient du dehors ou du dedans. Paragraphe 5. Il ne dit pas davantage quelle est l'origine de la respiration, quelle en est la cause, et si elle vient de l'extérieur ou de l'intérieur. Car l'intelligence que Démocrite fait venir du dehors ne peut plus, ici, prêter son secours à l'animal. Mais c'est de l'intérieur que part le principe de la respiration et du mouvement, sans que le milieu environnant exerce en ceci la moindre violence, car il est absurde de croire à la fois et que le milieu environnant puisse comprimer l'animal et que la portion d'air qui entre en lui soit capable de le distendre. Tels sont à peu près tous les détails que donne Démocrite et la façon dont il présente ses théories. Paragraphe 6. Mais si l'on doit regarder comme exact ce qui a été dit plus haut, et s'il est vrai que tous les animaux ne respirent pas, on ne peut pas trouver que la cause indiquée par Démocrite suffise pour expliquer la mort en général. Elle ne l'explique tout au plus que pour les animaux qui respirent, et même pour cela, sa théorie n'est pas bien complète. Paragraphe 7. On peut s'en convaincre par l'observation de faits que nous sommes tous à même d'éprouver. Ainsi, dans les fortes chaleurs, comme nous avons alors plus haut, nous avons aussi plus besoin de respiration, et de fait, nous respirons plus fréquemment. Au contraire, quand l'air ambiant est froid et qu'il resserre et condense le corps, il en résulte que nous retenons notre haleine, bien qu'il fallût aussi dans ce cas, si l'on en croyait Démocrite, que l'air qui du dehors entre en nous empêchât cette compression. Paragraphe 8. Or, c'est tout le contraire qui arrive. En effet, quand la chaleur vient s'accumuler en trop grande quantité, parce qu'on n'expire pas l'air intérieur, on éprouve alors le besoin de respirer, et l'on est forcé de respirer en aspirant. Mais on respire fréquemment quand on est très échauffé, et l'on ne respire que pour se rafraîchir dans un temps où c'est, comme on dit, mettre du feu sur du feu. Chapitre 5. Sommaire. Réfutation de la théorie du Timée sur la respiration. Lacune de cette théorie. Elle ne s'applique qu'à l'homme et ne s'accorde pas avec les faits. Paragraphe 1. L'impulsion circulaire décrite dans le Timée n'explique pas du tout comment les animaux, autres que l'homme, parviennent à conserver leur chaleur. Et l'on ne dit pas si c'est de la même façon ou de toute autre manière. En effet, si la fonction de la respiration n'a été accordée qu'aux animaux terrestres, il faut dire d'où vient qu'elle ne l'est qu'à eux seuls. Si elle est donnée aussi à d'autres animaux, et que la manière dont ils la possèdent soit différente, il faut encore s'expliquer sur ce point et dire si l'on accorde que tous les animaux puissent respirer. Paragraphe 2. Voici, du reste, l'explication toute imaginaire que Timée donne de la cause de la respiration. Selon lui, la chaleur sortant au dehors par la bouche, l'air ambiant se trouve poussé et vient tomber en traversant les chairs qui sont raréfiées dans le même lieu d'où est sortie la chaleur intérieure, attendu qu'il ne peut y avoir de vie de nulle part, les parties se remplaçant les unes les autres. L'air échauffé, ajoute Timée, sort de nouveau par le même lieu et repousse à l'intérieur, par la bouche, l'air qui en sortait chaud. Et ce mouvement alternatif persiste et dure chez l'homme qui, de cette façon, inspire et expire. Paragraphe 3. Admettre cette théorie, c'est admettre aussi que l'expiration est antérieure à l'inspiration. Mais c'est tout le contraire qui a lieu. Et en voici la preuve. Ces mouvements, en effet, se succèdent régulièrement l'un à l'autre. Or, l'on expire quand on meurt. Donc, il faut que l'on débute par l'inspiration. Paragraphe 4. Mais ceux-mêmes qui soutiennent cette théorie n'ont pas dit dans quel but ces deux fonctions ont été données aux animaux. Je veux dire, les fonctions d'inspirer et d'expirer. Ils n'en ont parlé que comme d'un phénomène accessoire. Nous voyons pourtant que ce sont là les conditions souveraines de la vie et de la mort, car du moment que la respiration est devenue impossible, les animaux faits pour respirer doivent mourir. Paragraphe 5. Il est en outre absurde de croire que la sortie et la rentrée de la chaleur par la bouche nous soient bien connues, et que l'entrée de l'air dans notre poitrine et sa sortie quand il est échauffé soient si parfaitement ignorées de nous. Paragraphe 6. Il ne l'est pas moins de supposer que la respiration soit l'entrée de la chaleur. L'observation montre tout le contraire. L'air qu'on expire est chaud, celui qu'on aspire est froid. Et quand ce dernier air est chaud, on ne le respire qu'avec peine. Et en effet, par cela seul, que l'air qui entre ne refroidit pas assez le corps, on doit tirer son haleine à plusieurs reprises. Chapitre 6. Sommaire. On ne peut pas supposer non plus que la respiration ait pour objet l'entretien de la chaleur vitale. Cette chaleur s'entretient surtout par les aliments et la nutrition. Paragraphe 1. On ne peut pas admettre non plus que la respiration ait pour objet l'alimentation du feu intérieur, qui devrait être nourri par l'air aspiré, et que la respiration soit en quelque sorte du combustible qu'on mette sur le feu, tandis que l'expiration aurait lieu quand le feu serait alimenté. Paragraphe 2. Nous répéterons, contre cette théorie, l'objection que nous avons faite contre les précédentes. Il faudrait que ce phénomène, ou du moins quelques phénomènes analogues, se reproduisît dans les autres animaux, car tous, ils possèdent une chaleur vitale. Paragraphe 3. D'autre part, si l'on soutient que la chaleur vient de l'air aspiré, il faut expliquer comment elle en vient. Mais ce n'est là encore qu'une hypothèse créée à plaisir, car nous voyons que la chaleur vient bien plutôt de la nourriture. Paragraphe 4. Enfin, dans cette théorie, on admet que c'est ici un même organe qui prend l'aliment et qui en rejette le résidu. Mais nous ne voyons pas que cela se passe ainsi dans les autres fonctions. Chapitre 7. Sommaire. Réfutation de la théorie d'Empédocle sur la respiration. Citation de 25 vers de ce philosophe. Empédocle n'a parlé que de la respiration par le nez. Il a omis la respiration par la bouche, laquelle est cependant beaucoup plus importante. Paragraphe 1. Empédocle explique aussi la respiration, mais il ne dit rien de bien clair sur le but de cette fonction. Et il ne dit pas si, dans son opinion, tous les animaux respirent ou s'il y a des exceptions. Paragraphe 2. De plus, en parlant de la respiration qui se fait par les narines, il croit parler de la respiration la plus importante. Mais il y a tout ensemble, et la respiration par l'artère qui vient de la poitrine, et la respiration par les narines. Et sans la première, les narines ne sauraient pas du tout respirer à elles seules. Les animaux, quand on les prive de la respiration qui se fait par le nez, ne souffrent pas, tandis qu'ils meurent si on les prive de la respiration par l'artère. Paragraphe 3. La nature ne se sert qu'indirectement et comme par accessoire de la respiration des narines pour constituer l'odorat chez certains animaux. Aussi, la plupart des animaux jouissent-ils de l'odorat, bien que chez tous, l'organe ne soit pas le même. On a, du reste, parlé de ce sujet plus clairement dans d'autres ouvrages. Paragraphe 4. Empédocle ajoute que l'inspiration et l'expiration ont lieu par le moyen de certaines veines qui contiennent du sang, sans en être cependant tout à fait remplies. Ces veines ont des pores pour recevoir l'air extérieur, plus petits que les particules du corps, plus grands que celles de l'air, et comme le sang peut se mouvoir naturellement, soit en haut, soit en bas, quand il se porte en bas, l'air s'écoule, et c'est la respiration. Quand il va en haut, l'air s'échappe au dehors et c'est l'expiration. Paragraphe 5. Empédocle compare ce mouvement à celui des clepsydres et il dit « Voici comment tous les animaux respirent et expirent. Dans tous les tuyaux où il n'y a pas de sang et qui, traversant les chairs, sont tendus à la surface du corps et au-dessus de leur bouche sont troués par de profonds sillons d'un bout à l'autre des sommets extrêmes des narines, de telle sorte que le sang limpide puisse s'y cacher et que l'air s'y partage aisément par ces deux conduits. Quand le sang léger s'en est retiré précipitamment, l'air en résonnant s'y élance d'un flot rapide et quand il remonte, l'animal expire de nouveau. Ainsi, quand une jeune fille s'amuse avec des clepsydres en airain bien travaillé, tantôt plaçant sous sa main droite le trou du tuyau, elle enfonce le vase dans le corps léger de l'eau argentée. Mais le liquide n'entre pas dans le creux du vase, il est repoussé par la masse d'air qui presse au-dedans du vase sur les trous nombreux, jusqu'à ce que l'enfant laisse une libre entrée au flux pressé de l'eau. Et alors, la résistance de l'air venant à manquer, l'eau entre sans obstacle. Et de même encore, quand l'eau occupe le fond du vase d'airain, l'ouverture étant fermée par la main humaine ainsi que toute entrée, l'air du dehors, qui veut s'introduire au-dedans, retient le liquide autour des portes de cet isthme retentissant dont il occupe les bords, jusqu'à ce qu'on lâche la main, et alors, plus vivement encore qu'auparavant, l'air venant à entrer, l'eau s'échappe sans obstacle. C'est de même ainsi que le sang délicat se presse dans les vaisseaux, après avoir pénétré en rétrogradant dans les parties profondes. Aussitôt, un autre courant d'air y descend, s'élançant comme un flot. Et quand il est remonté, l'animal expire alors tout ce qu'il avait reçu. Paragraphe 6. Voilà l'explication d'Empédocle sur la respiration. Mais, ainsi que nous le disions, les animaux qui respirent évidemment par l'artère respire à la fois et par la bouche et par le nez. Et par suite, Puisque Empédocle ne parle plus que de cette dernière respiration, il faut rechercher jusqu'à quel point la cause qu'il lui assigne sera bien en harmonie avec les faits. Paragraphe 7. Mais il paraît que c'est tout le contraire qui se passe. En effet, c'est en soulevant le corps, comme se soulèvent les soufflets dans les forges, que les animaux respirent. Et la raison peut bien admettre que l'action de la chaleur soit de soulever et que le sang remplisse ici la fonction de la chaleur. Mais c'est en se comprimant et en se resserrant que les animaux expirent par un mouvement pareil encore à celui des soufflets. La seule différence, c'est que les soufflets ne reçoivent pas l'air et ne le chassent pas par un même trou. Tandis que, quand nous respirons, c'est par la même ouverture que nous recevons et rejetons l'air tour à tour. Paragraphe 8. Mais, en ne parlant que de la respiration qui se fait par le nez, Empédocle a commis une grande erreur. Car la respiration n'appartient pas en propre aux narines. Loin de là. Elle pénètre dans le conduit qui est près du gosier, vers la partie extérieure de la voûte de la bouche. Et, comme les narines sont trouées, le souffle passe en partie par là et en partie par la bouche, soit pour entrer, soit pour sortir. Paragraphe 9. Telles sont donc les diverses objections que soulèvent les théories présentées jusqu'à présent sur la respiration. Chapitre 8. Sommaire. Nécessité de la chaleur naturelle pour la vie et la nutrition. Le cœur en est l'instrument, et c'est de lui que partent toutes les veines. Deux sortes d'extinction du feu naturel. Nécessité d'un refroidissement pour l'entretenir. Paragraphe 1. On a dit antérieurement que la vie et l'âme ne peuvent subsister dans les êtres qu'à la condition d'une certaine chaleur, parce que la digestion par laquelle se fait la nutrition dans les animaux ne saurait s'accomplir sans âme et sans chaleur. Le feu est en effet l'instrument universel de toutes ses fonctions. Paragraphe 2. Voilà pourquoi c'est dans le premier lieu du corps et dans la première partie de ce premier lieu, où il doit y avoir nécessairement un principe de ce genre, que doit aussi nécessairement se trouver la première âme, l'âme nutritive. Paragraphe 3. Or, ce lieu central est intermédiaire entre celui qui reçoit la nourriture et celui qui en rejette le résidu. Dans les animaux qui n'ont pas de sang, cette partie n'a pas de nom spécial. Dans les animaux qui ont du sang, elle se nomme le cœur. Paragraphe 4. La nourriture, dont en définitive se forment les parties qui composent les animaux, c'est la nature du sang. Il faut donc que le principe du sang et des veines soit identique, car l'un est fait pour l'autre, comme un vase capable de le recevoir. Dans les animaux qui ont du sang, c'est le cœur qui est le principe des veines, car ce n'est pas parce que les veines traversent le cœur, c'est parce qu'elles en partent que toutes en dépendent, comme nous le voyons bien clairement par l'anatomie. Paragraphe 5. D'ailleurs, il est impossible que les autres facultés de l'âme existent sans la faculté nutritive. Nous avons dit antérieurement la raison dans le traité de l'âme. Mais la faculté nutritive ne peut pas davantage exister sans le feu naturel, parce que c'est dans le feu que la nature a puisé la flamme nécessaire à cette faculté. Paragraphe 6. La destruction du feu, comme on l'a dit plus haut, est de deux sortes. Ou il est étouffé ou il se consume. Il est étouffé quand il cesse par l'action des éléments contraires. Et voilà pourquoi le feu est étouffé en masse par le froid du milieu qui environne l'animal et qu'il l'est plus vite encore quand l'animal est divisé. Cette destruction violente du feu est donc absolument la même, qu'elle se fasse ou par des choses inanimées ou par des êtres animés. Ainsi, l'animal, quand on le coupe avec des instruments tranchants ou quand il est gelé par l'effet d'un froid excessif, ne tarde pas à mourir. Paragraphe 7. Au contraire, quand le feu se consume et s'éteint lui-même, c'est par la quantité trop forte de la chaleur. Car si la chaleur qui entoure le corps en ignition est plus vive que la sienne et qu'il n'est plus d'aliment, le feu est détruit, non pas par le froid, mais parce qu'il s'éteint lui-même. Paragraphe 8. Ainsi donc, il faut nécessairement qu'il y ait un certain refroidissement pour que le feu se conserve. Et c'est là seulement ce qui le protège contre cette destruction. Chapitre 9. Sommaire. Modes divers selon lesquels se fait le refroidissement nécessaire à la respiration. Exemple des insectes. Organisation spéciale de ceux qui bourdonnent. Animaux munis de poumons qui peuvent vivre longtemps sans respirer. Amphibies. Paragraphe 1. Parmi les animaux dont les uns sont aquatiques et les autres vivent sur terre, ceux qui sont très petits et ceux qui n'ont pas de sang sont suffisamment refroidis par le milieu qui les environne, soit eau, soit air, pour que leur chaleur naturelle soit préservée de ce genre de destruction. Comme ils ont peu de chaleur, il suffit de très peu de choses pour les garantir. Aussi, la plupart de ces animaux vivent-ils fort peu, car ils ne peuvent supporter qu'une bien petite différence dans l'un ou l'autre sens. Paragraphe 2. Quant à ceux des insectes qui vivent plus longtemps, bien qu'ils soient privés de sang, ainsi que tous les autres, le dessous de leur corselet est divisé en deux parties, afin qu'ils puissent être refroidis à travers cette membrane qui, chez eux, est plus mince. Et comme ils ont plus de chaleur, ils ont davantage aussi besoin de refroidissement. Paragraphe 3. Telles sont les abeilles, car il y a des abeilles qui vivent jusqu'à 7 ans. Tels sont tous les autres insectes bourdonnants comme les guêpes, les scarabées et les cigales. Toutes ces espèces d'insectes font du bruit en soufflant comme s'ils étaient hors d'haleine. C'est sous leur corselet même, par le souffle naturel qui s'élève et qui s'abaisse, que se fait le choc de l'air intérieur contre la membrane. Ces animaux meuvent cette partie, tout comme les animaux qui respirent du dehors la meuvent par le poumon et les poissons par les bronchies. Paragraphe 4. Il arrive chez ces insectes quelque chose d'analogue à ce qui se passe chez les animaux qui respirent quand on les étouffe en leur fermant la bouche. Ainsi, c'est par le poumon que ces derniers animaux essayeraient de reprendre leur souffle en dilatant leur poitrine. Mais ce mouvement ne serait pas capable de leur procurer un refroidissement suffisant. Pour les insectes, au contraire, il suffit très bien et ils font leur bourdonnement, comme nous venons de le dire, par le choc de l'air intérieur contre la membrane. C'est à peu près le bruit que font les enfants lorsqu'ils placent une légère pellicule sur des chalumeaux percés de trous. Paragraphe 5. Voilà comment chantent celles des cigales qui sont chantantes. car celles-là ont plus de chaleur que les autres et le dessous de leur corselet est divisé. Au contraire, il ne l'est pas chez celles qui ne chantent point. Paragraphe 6. Parmi les animaux qui ont du sang et des poumons, mais dont le poumon est petit et spongieux, il y en a quelques-uns qui peuvent vivre très longtemps sans respirer. C'est que leur poumon peut recevoir une très grande dilatation et qu'il n'y a que peu de sang et d'humidité. Alors, le mouvement qui lui est propre suffit pour refroidir l'animal pendant longtemps. À la fin, cependant, il ne peut plus vivre et il meurt étouffé parce qu'il ne respire pas, ainsi qu'on l'a dit antérieurement. Paragraphe 7. En effet, la destruction de la chaleur naturelle qui s'éteint faute de refroidissement est ce qu'on nomme étouffement. Et en parlant des animaux qui meurent ainsi, nous disons qu'ils meurent étouffés. Paragraphe 8. Nous avons dit encore antérieurement que les insectes ne respirent pas. Et il est facile d'observer ce fait dans les petits animaux tels que les mouches et les abeilles, qui peuvent en effet surnager très longtemps dans les liquides, pourvu que ces liquides ne soient ni trop chauds ni trop froids. Paragraphe 9. Cependant, ceux de ces animaux qui ont moins de force cherchent à respirer plus fréquemment, mais ils meurent, et l'on dit qu'ils sont étouffés quand leur poitrine est pleine et que l'humidité qui est dans leur corselet a disparu. C'est là aussi ce qui fait qu'après être restés fort longtemps dans la poussière, ils s'en tirent sans avoir souffert. Paragraphe 10. Parmi les animaux qui vivent dans l'eau, tous ceux qui n'ont pas de sang vivent dans l'air plus longtemps que ceux qui ont du sang et qui reçoivent le liquide, ainsi que les poissons. Comme ils ont peu de chaleur, l'air peut les refroidir pour longtemps, et tels sont les crustacés et les polypes. À la fin, cependant, l'air ne leur suffit pas pour toujours vivre hors de l'eau, parce qu'ils ont trop peu de chaleur. Paragraphe 11. Le plus grand nombre des poissons vivent aussi dans la terre, mais ils y restent sans mouvement et on les trouve dans le sol où ils sont enfouis. Paragraphe 12. Tous les animaux qui n'ont pas du tout de poumons ou qui ont un poumon privé de sang ont moins souvent besoin de refroidissement.